Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro en compagnie de Jean-François Chaumont, Guillaume Lepage aujourd'hui. Ce soir, devrais-je dire, bonsoir messieurs.
Bonsoir Nick.
JF qu'on rejoint du côté de la grande région des alentours de Montréal. Mais Guillaume qui, lui, est à Ottawa aujourd'hui, donc on te rejoint dans ta chambre d'hôtel. Parce que messieurs, vous êtes allés aux nouvelles aujourd'hui. Bien évidemment, date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey, toujours une des journées les plus occupées. Ça l'a été, je peux vous dire, j'étais du côté du pupitre, moi, puis ça a quand même roulé. C'est rare qu'il y ait un gros nom comme Mikko Rantanen qui ait échangé dans une dernière journée de vraiment à la date limite des transactions. Puis ça n'a pas été la seule transaction importante de la journée, donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Je vais parler de ça avec les gars, on va faire le tour de tout ce qui s'est passé. On va se prononcer aussi hein, à la suite de toutes ces transactions-là, quelles équipes ont été gagnantes, lesquelles ont fait le plus de... les plus grands pas vers l'avant et celles qui ont reculé dans la course pour la conquête de la Coupe Stanley. Avant de commencer, ben écoutez, je vous invite premièrement, là, si vous voulez vraiment savoir tout ce qui s'est passé, toutes les transactions, allez faire un tour sur le site de LNH.com. Aujourd'hui, les gars, mes collègues, ont travaillé d'arrache-pied pour vraiment... là, on vous a offert une belle couverture de tout ce qui s'est passé à la date limite. Donc, et ça va se poursuivre dans les prochains jours. Donc, allez lire tout ça. Et au niveau balado, ben écoutez, si vous nous écoutez sur le site de LNH.com, ben, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute à peu près qui peuvent exister en ce bas monde, entre autres à Apple, Spotify, YouTube principalement. Faites une recherche, la tasse de café, vous allez nous trouver. Mais si on se lance, Canadiens, on commence avec les Canadiens un peu. C'était calme et c'était un peu le portrait à quoi on s'attendait du côté d'un peu tout le monde, particulièrement à la suite de la signature de Jake Evans de son nouveau contrat cette semaine. Hein, JF, ça l'a un peu, ça a un peu calmé les ardeurs de tout le monde. Ça a signifié qu'on allait probablement rester les pieds dans le ciment du côté des Canadiens parce que ce qui était une de nos meilleures valeurs d'échange là, venait d'être enlevé de sur le marché.
Les pieds dans le ciment, mais aussi un vote de confiance de la part de Kent Hughes, Jeff Gorton. On lance comme message aux joueurs qu'on y croit, que c'est possible de participer aux séries. Pour la première fois, c'est la quatrième date limite des transactions pour le duo Hughes et Gorton. C'est la première fois que le CH ne tombe pas dans le camp des vendeurs. Puis quand tu regardes le marché aujourd'hui, Yoel Armia aurait pu possiblement te rapporter un choix de deuxième tour. David Savard aurait pu rapporter un troisième ou un quatrième tour. Mais le CH a préféré garder les actifs au sein de l'équipe. Puis ce que j'ai aimé du message de Kent Hughes, il a eu une discussion avec son capitaine Nick Suzuki au retour de la confrontation des quatre nations. Suzuki lui disait qu'il espérait voir le noyau, l'équipe demeurer intacte. Mais Hughes a répliqué en disant « Mais écoute, si tu viens cogner à mon bureau pour me parler, de me demander quoi faire dans les prochains jours, la balle est entre vos mains. Si l'équipe répond avec de bonnes performances, bien oui, je vais probablement opter pour le statu quo. » C'est ce que le CH a fait. 5 victoires d'affilée au retour des quatre nations. Une défaite en prolongation du côté d'Edmonton. Donc, quand même 11 points sur une possibilité de 12. Puis, on dit à cette équipe-là, bien, vous aimez jouer ensemble, vous avez du plaisir, mais essayez de vous battre jusqu'à la fin. Puis, honnêtement, on en a déjà parlé dans différents balados, mais la quantité de choix chez le CH, ça déborde déjà. Il y a plusieurs espoirs aussi. Aussi bien accorder une grande valeur à avoir une équipe qui va jouer des matchs significatifs jusqu'à la fin de la saison. Puis de voir ce groupe-là grandir de cette expérience-là.
Ça a vraiment été cette séquence-là qui a un peu tout changé. Et là, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, bon, au niveau des transactions, les Bruins de Boston là, qui ont lancé la serviette, on a décidé d'échanger entre autres Brad Marchand. Les Islanders de New York qui ont échangé Brock Nelson. Réellement, là, on se retrouve dans une course à 5 équipes pour les 2 dernières places d'équipes repêchées. Là-dessus, les Red Wings de Détroit n'ont pas vraiment bougé. Les Sénateurs ont été très actifs, on va en reparler tantôt, Guillaume. Et les Rangers ont même se sont départis, on en reparlera ça aussi, se sont départis d'un élément en Riley Smith. Les Canadiens, même s'ils n'ont pas bougé, je trouve, se retrouvent dans une position tout aussi bonne, peut-être même meilleure qu'ils l'étaient avant cette dernière semaine-là de transactions.
Ben absolument. Puis, tu sais, on en parlait beaucoup comme quoi Evans-Armia, c'est un duo hyper important à 5 contre 5, mais aussi en infériorité numérique. Donc, on garde cet ensemble, On garde le duo Evans-Armia, on garde Savard à la ligne bleue. Puis, tu fais bien de dire, du côté de l'Est, il y a des équipes qui ont probablement abandonné, comme les Bruins de Boston. Les Rangers ont quand même été chercher Carson Soucy. Là, ils ont vendu et acheté là, un petit peu de la formule des deux côtés. Ouais, brasser la soupe.
Mon point, c'est qu'il faut que tu l'intègres, Carson Soucy. Il faut que tu refasses tes trios sans Riley Smith.
Oh, ouais.
Tandis que les Canadiens, c'est le même noyau. Là. Tout le monde se connaît.
C'est la même équipe.
Il n'y a personne
même...
qui...
L'autre formation dont on parle pas souvent, mais les Devils New Jersey, c'est pas coulé dans le ciment non plus une participation aux séries, surtout sans Jack Hughes jusqu'à la fin de l'année. C'est peut-être une équipe qui pourrait glisser un petit peu au classement. Donc, la porte est ouverte.
JF, juste ajouter une nouvelle de dernière seconde. Dougie Hamilton, on parle d'une absence à long terme aussi. Ça vient d'être annoncé par Tom Fitzgerald. Donc, il te manque ton meilleur attaquant. Ton meilleur attaquant, ton meilleur défenseur, c'est loin de régler. Par contre, le problème, c'est que les Canadiens peuvent pas rentrer dans cet espace-là d'équipe dans la métropolitaine. Donc, c'est soit équipe repêchée, puis avec la façon que ça roule dans l'Atlantique présentement, disons-le, là, tu peux pas aller chercher les trois clubs d'en haut parce que ça gagne, puis ça gagne souvent.
Non. Puis disons que la course aux armements en haut dans la division du Canadien, c'est du sérieux. Mais ce que j'aime aussi, Hughes, Gorton n'ont quand même pas dérogé de leur philosophie. Là. Ils n'ont pas échangé de gros choix repêchage, ils n'ont pas échangé un Michael Hage, on n'a pas non plus, ils ont résisté à la tentation de peut-être tomber dans le camp des acheteurs puis de payer un gros prix, mais en gardant le groupe de 23 joueurs, ils se disent, on a quand même des chances avec cette formation-là, puis Hughes a répété plus d'une fois, de toute façon, la Coupe Stanley, qui est l'objectif à long terme, ce ne serait pas pour cette année. Oui, on pourrait rentrer en séries éliminatoires, mais on ne va pas se déshabiller non plus pour absolument accéder aux séries cette année. Donc, le message, tu sens que si le CH participe cette année, mais ça sera un gros bonbon, un bonus. Mais si on doit repousser à l'an prochain, mais ce n'est pas la fin du monde non plus.
Est-ce que on a demandé à Kent Hughes à quel point... Est-ce qu'on a quand même tenté le terrain pour s'améliorer, pour peut-être être acheteur, ou on est beaucoup plus optimiste de le faire cet été au repêchage?
Mais la question a été posée à Kent Hughes, puis Hughes rappelait qu'à la date limite des transactions, des échanges typiques hockey, ça reste plus difficile, plus rare. Oui, il a posé des questions, il a lancé des lignes à l'eau, c'est probablement informé, je ne serais pas surpris que le CH recherchait un joueur de centre, un deuxième centre, surtout en ce moment, c'est Owen Beck qui joue en compagnie d'Alex Newhook et de Patrick Laine, remplace Kirby Dack. Puis même Dack en santé ou pas, l'organisation n'a pas le choix de se poser déjà des questions sur sa valeur à long terme. Est-ce que c'est lui qui peut remplir ce rôle-là comme deuxième centre? À ce sujet-là, Kent Hughes restait diplomate. C'est un DG qui a maintenant assez d'expérience. C'est un ancien agent aussi. Il a déjà vu Dinger. Puis il a rappelé deux exemples dans la cour du Canadien. Josh Anderson, l'an passé, tout le monde voulait le sortir de Montréal, même peut-être racheter son contrat. Cette saison, il y a peu de critiques contre Josh Anderson. On lui a demandé un mandat plus défensif en infériorité numérique. Troisième trio, c'est un joueur d'énergie. Puis il rappelait aussi qu'il y a deux ans, Jake Evans avait marqué deux buts en 54 matchs. Evans s'est replacé. Donc, il y a toujours la possibilité de voir Kirby Dack se relancer. Puis, il ne faut pas écarter aussi, Kirby Dack pourrait se relancer dans une position d'ailier droit et non pas de centre. Je demeure persuadé que le CH va tout faire pour aller chercher du renfort, mais au cours de l'été.
Oui, non, effectivement. Anderson, qui encore hier, on a réussi à trouver le seul endroit où il n'était pas encore blessé pour recevoir une rondelle.
Il reçoit un tir frappé. Non, c'est pauvre
Josh. C'était qui? C'était Gallagher, même, je pense.
Oui, c'est Brendan Gallagher qui voulait dégager dans le fond de son territoire. Josh était là.
Josh est magané. C'est pas mal ça. Donc, journée calme du côté des Canadiens. Je pense que c'est partie remise d'ici
à cet
été.
Puis rapidement, là, si on veut fermer le chapitre canadien, Caden Goulet a patiné pour une première fois du côté de Brossard. Pas de plan précis, pas d'échéancier précis, sauf que c'est possible de voir un retour au jeu pour Goulet. Un retour au jeu s'effectuerait si jamais le CH est toujours dans la course. Si on voit qu'il n'y a plus de chance de participer aux séries, mais on ne va pas presser le citron inutilement. On attendrait à la saison prochaine pour revoir Caden Goulet en uniforme. Puis sinon, de petites transactions papier, Yacoub Dobesh et Owen Beck, les deux joueurs ont été cédés au Rocket de Laval. Quand on dit cédés, c'est simplement administratif. Mm-hmm. Ça permettrait à Beck et Dobesh de jouer pour le Rocket en série. Puis un autre joueur qu'on avait pratiquement oublié, mais Oliver Kapanen, qu'à sa saison prendra fin du côté de la Suède, Kapanen pourrait lui aussi endosser l'uniforme du Rocket pour les séries. Là, si on veut, faut pas non plus perdre Guillaume, qui dans une chambre d'hôtel à Ottawa pourrait s'endormir. Donc, on va parler un petit peu des Sénateurs aussi.
Je suis en train de penser à mon souper, là, parce qu'il est 7h15.
Ça gargouille hein, dans ton ventre?
Exactement.
Hey, c'est pire que ça. Moi, j'ai commandé la pizza. Elle est arrivée juste avant notre balado. Donc, elle est en train de refroidir.
Il y a l'odeur.
Là, c'est ça. J'ai, la l'odeur. Pizza, c'est bon. J'ai l'odeur. C'est
pas mauvais, la pizza froide. Mais t'as commandé où, Nick, pour que ce soit long de même? T'sais, si tu restes en région éloignée, commande pas à Montréal non plus.
J'ai pas commandé où. J'ai commandé tard. C'est ça le problème. Okay. Parce que avant ça, il n'y avait pas vraiment le temps de faire ça. Et j'avais une petite planification de balado en plus à faire. Donc, comme je l'ai dit, Canadien, le voyage dans l'Ouest qui se poursuit contre Calgary samedi. Ensuite, des matchs contre les équipes du Pacifique.
Ouais, les Canucks, c'est le Kraken.
Avant de revenir à la maison contre les Panthers samedi prochain. Mais là, d'ici là, on va avoir un balado là, mercredi prochain pour parler de tout ce qui se passe. Ouais, allons-y, un gars qui a bien fait. Écoute, Guillaume, tu m'avais dit la dernière fois qu'on a couvert un match ensemble, on parlait, puis tu m'as dit, je pense que ça va être une bonne idée d'aller à Ottawa. Ça se pourrait qu'il y ait un peu d'action chez les Sénateurs. Ouais, c'est une équipe qui veut faire les séries. Je pense pas aller perdre mon temps là-bas. T'as probablement pas perdu ton temps, effectivement, avec la journée, parce que ça s'est
commencé. Un petit peu, je te dirais.
Oui, t'as attendu.
On a attendu Steve Steos pendant deux heures.
Ça fait partie du métier. Attendre.
Non, c'est
une grande portion du métier.
Mais non, on attendait la confirmation de la dernière transaction de la journée, puis ça a été long, mais...
Mais c'est parce que ta journée a commencé vraiment de bonne heure quand même, parce que les Sénateurs ont été, quoi, une, sinon l'équipe la plus rapide à sauter sur la gâchette ce matin. Là.
Ben écoute, je suis arrivé au centre d'entraînement, vraiment, vraiment un beau centre d'entraînement par ailleurs. Là. Ah.
Toute beauté.
Je me suis installé, j'ai ouvert mon ordi, puis là, la pratique commençait à 11h, il était à peu près 10h52, puis là, les joueurs commençaient à sortir sur la patinoire, à tirer des rondelles et tout ça, puis à 10h59, tous ceux qui étaient sur la glace sont rentrés au vestiaire. Là, on s'est comme posé des questions. On se demandait est-ce que la pratique est annulée? Est-ce que on savait pas trop ce qui se passait? Puis les joueurs sont ressortis peut-être deux minutes plus tard. Puis c'est à ce moment-là que sur les réseaux sociaux, on a commencé à voir apparaître là, les rumeurs de transactions avec Josh Norris, Jacob Bernard Docker. Les deux n'étaient pas sur la glace en plus, donc on a fait 1+1. On savait qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Puis je pense quelques minutes plus tard, là, on a eu la confirmation que Dylan Cousins avait été acquis par les Sénateurs. Une grosse acquisition quand même. On avait entendu que le nom de Cousins était sur le marché depuis quelques semaines. On en avait même glissé un mot peut-être à Montréal. On trouvait que c'était quand même une bonne option dans un rôle de deuxième centre. Finalement, c'est les Sénateurs qui ont décidé d'y aller avec lui pour la fin de la saison et pour les années à venir aussi, parce que Cousins est encore sous contrat pour plusieurs années. Drôle. Quand tu regardes ça froidement, Josh Norris... Pour Dylan Cousins, tu regardes les statistiques, tu regardes le statut, c'est pas mal deux joueurs de centre, un à 24, l'autre à 25, deux joueurs de centre qui connaissent une saison coup-ci coup-ça en ce moment. Ce qu'on nous a dit du côté des Sénateurs, c'est qu'on voulait vraiment s'améliorer au niveau de la production à 5 contre 5, au niveau du la capacité de marquer des buts, puis d'aller dans des endroits où on pouvait se salir le nez et tout ça. Puis on a l'impression que du côté de Dylan Cousins, on va chercher un petit peu plus cette touche-là qu'avec Josh Norris. Mais c'est une décision qui a pas fait l'unanimité dans le vestiaire. Là, on a vu ça après. C'était une scène de désolation dans le vestiaire des Sénateurs ce matin.
Oui, Brady Tkachuk qui était particulièrement émotif et même revenu voir les médias, parce que là, disons que le message qu'il envoyait, les larmes sur le bord des larmes, tout ça, t'es celui qui doit remplacer, tu sais, qui va rentrer à ce vestiaire-là par la suite. Il me semble que ça, l'ambiance risque d'être un petit peu terne pour ton avis.
Ouais, mais tu sais, il a quand même souligné, là, il dit, tu sais, je suis conscient que ma réaction initiale, c'est peut-être pas la meilleure pour les nouveaux venus, là, Dylan Cousin, Dennis Gilbert, qui fait aussi partie de la transaction.
Mais il dit en choix, juste pour, pour les gens qui...
Un choix de deuxième tour.
Choix de deuxième tour, Cousins, Dennis Gilbert contre Joshua Norris et Jacob Bernard Docker. Oui, et voilà.
Exact. Mais non, c'est ça. Il dit, tu sais, je suis conscient que c'est peut-être pas le meilleur message envoyé comme capitaine d'être devant les médias au bord des larmes. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je savais, tu sais, qu'il y avait une relation avec Josh Norris qui est assez proche. Ils ont joué ensemble au programme de développement américain. Donc, c'est une relation qui date d'il y a plusieurs années. Mais de le voir arriver, la tête entre les deux jambes, puis là, quand il a levé le visage, tu voyais les larmes au coin de ses yeux, il se mordait les lèvres. Ses premières réponses, je pense que ça faisait 3-4 mots parce qu'il n'était pas capable d'aller au bout de ses phrases, parce qu'il allait éclater en sanglots. Tu sais, ça a comme un peu frappé tout le monde. On a comme un peu adapté les questions. Là, c'était moins du...
De l'analyse des X puis des O.
Qu'est-ce que ça vous apporte aux Sens? Puis comment tu vois les semaines à venir et tout ça? On a laissé ça de côté pour plus parler un peu plus de la relation qu'il y avait avec Josh Norris. Mais Steve Staios disait en conférence de presse, il dit « Je savais que cette décision-là serait peut-être pas nécessairement populaire dans le vestiaire. Je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être des réactions un peu plus négatives parce qu'il savait à quel point Norris occupait une grande place dans ce vestiaire-là. » Mais il dit « Si je me laisse affecter par ça, je fais pas mon travail. » Puis il a décidé, quand l'offre est arrivée sur la table, d'ajouter Dylan Cousins dans cette course aux séries-là. Les Sénateurs qui occupent la deuxième place de quatrième as dans l'Est au moment où on se parle, il a pas voulu laisser cette occasion-là passer. Donc, a procédé à la transaction. Puis bon, les Sénateurs sont en action à 12h30 demain samedi contre les Rangers de New York, qui sont à égalité avec eux au classement. On n'a pas beaucoup de temps pour tourner la page et passer à autre chose dans le camp des Sénateurs.
Mais Guillaume, tu sais, tu parles d'un DG qui a dit qu'il a peut-être été un petit peu insensible à son capitaine qui était grand ami avec Josh Norris. Mais tu te mets dans la peau du DG, il a la chance d'obtenir un centre en Dylan Cousin qui n'a pas encore probablement atteint son plein potentiel. Mais surtout Norris, avec son historique de blessures à l'épaule, c'est un gars qui a manqué énormément de matchs. Puis tu regardes les deux salaires, Josh Norris avait 5 autres saisons, je crois, à tout près de 8 millions. Et Dylan Cousin a également 5 saisons, mais les Sénateurs vont grappiller quelques dollars. Là. Cousin est à 7,1 millions. Donc, c'est une transaction qui, point de vue finance, faisait du sens.
Deuxième choix qui va être bien placé, là, logiquement.
Oui, deuxième choix qui va être bien placé. Puis un DG non plus, Théo, c'est pas là pour être meilleur ami avec Brady Tkachuk. Peut-être qu'un jour, Brady Tkachuk va cogner à la porte, faire comme son frère, va demander à partir d'Ottawa. Là, on spécule, mais c'est une possibilité qui pourrait survenir un jour. Donc, puis, Staios voit une fenêtre, veut améliorer son équipe. Les Sénateurs, c'est pas non plus à 100% assuré d'une participation en série. Donc, probablement qu'il jugeait qu'avec Cousins, il y a plus de chances d'y parvenir. Puis, il y a peut-être aussi, tu sais, Buffalo, c'est tellement difficile de lire cette équipe-là. Est-ce qu'on parle d'un joueur qui n'a pas atteint son potentiel? Est-ce que Cousins, c'est ce qui va donner une quarantaine de points? Tu regardes Sam Reinhardt. Quand Reinhardt est parti de Buffalo, il a fini par
explosion.
Prendre son envol avec les Panthers. Jack Ryan Eichel O'Reilly. Avait quand même connu de bonnes saisons avec les Sabres, mais c'était un Jack Eichel complètement métamorphosé avec les Golden Knights. On dirait qu'il y a un environnement tellement négatif du côté des Sabres de Buffalo que je peux comprendre une équipe d'y aller d'un pari avec Dylan Cousins.
Mais tu sais, tu as amené le point de... Bon, c'est pas son objectif d'être meilleur ami avec Brady Tkachuk, mais il y a quand même un certain danger à venir jouer avec la chimie de ta chambre avec à ce moment-ci de l'année. Là. C'est ça que je trouvais intéressant parce que, oui, tu laisses tes émotions de côté, mais en même temps... C'est la première fois que ce noyau-là, qui est en reconstruction depuis 7 ans, 7 ou 8 ans, en tout cas, c'est la première fois qu'il essaie de participer. Ce serait une première participation aux séries en 8 ans. C'est la première fois qu'on vient toucher au noyau de joueurs qui a grandi avec le club, puis qu'on l'envoie sous d'autres cieux pour obtenir quelque chose qui pourrait nous aider maintenant. Donc, c'est une adaptation aussi pour ce noyau-là. Là. C'est des joueurs qui n'ont pas vraiment vécu ça. Ils en ont vécu des échanges, des transactions, mais de voir quelqu'un qui est avec l'équipe depuis plusieurs années quitter comme ça alors que finalement on frappe à la porte des séries.
Oui, mais il y a un retour. C'est pas de voir quelqu'un partir contre un choix, contre un espoir. C'est pas du futur, c'est du présent et du futur avec Dylan Cousins.
Ouais, des fois, de brasser le pommier, là, ça peut donner des bonnes pommes. Donc, c'est peut-être ce à quoi on va avoir droit du côté d'Ottawa.
Et j'ajouterais aussi que je pense que les dollars grappillés ont servi quand même après dans la transaction de Fabian Zetterlund.
C'est ce que j'allais te parler. Là,
c'est important aussi.
Vois-tu, on a été chercher Zetterlund qui... Écoute, c'est difficile d'avoir une bonne saison hein, quand tu joues à San Jose cette année, mais somme toute, Zetterlund se débrouillait quand même bien. Cinquième meilleur marqueur de l'équipe, 36 points en 64 matchs, ce qui était, tu sais, l'année dernière, il en a fait 44 avec la même équipe de San Jose qui juste pas de force offensive. Là. Défensivement aussi, c'est assez pénible. Là. Bon, c'est difficile partout chez les Sharks, ça, c'est pas pour rien qu'on est dernier au classement. Ça, c'est une belle acquisition. C'est une belle acquisition de profondeur, comme tu rêves de faire à la date limite des transactions. Ça a coûté, bon, Noah Gregor puis Jakob Stapchuk. Ça a coûté un deuxième choix. On vient d'aller chercher un deuxième choix contre Buffalo. De Buffalo, c'est même pas lui qu'on a utilisé dans la transaction en plus. Là-dessus, Steve Steyer, je pense que c'est une super bonne décision qu'on a prise.
Et avec 17 buts, Zetterlund est maintenant le troisième meilleur buteur des Sénateurs. Donc, c'est quand même pas rien. Et c'est le deuxième meilleur à force égale.
Puis, il est physique aussi, je pense, Zetterlund, exact, comme joueur. Là.
Exact. C'est ça que Steyer disait. On voulait un peu changer, être une équipe plus difficile à affronter en série. Donc, on a l'impression qu'avec Cousins, c'est un joueur qui va peut-être un peu plus dans les endroits payants, là, aller salir le nez devant le filet. Zetterlund aussi en est un autre qui ne se gêne pas pour faire ça. C'est aussi au niveau de la production, les buts à force d'égal, j'en ai parlé, mais c'est aussi le deuxième meilleur buteur à 5 contre 5, Zetterlund, derrière Tim Stützle maintenant. Donc, 13 buts à force d'égal depuis le début de la saison. Donc, c'est quand même... des acquisitions importantes. Puis, je parlais aux collègues d'Ottawa qui suivent l'équipe sur une base quotidienne, qui sont au courant des combinaisons de trio et tout ça. Puis, ils se disaient, tu sais, en début de semaine, Drake Batherson était sur un trio avec David Perron et Josh Norris. Peut-être demain, c'est très improbable que Zetterlund soit là à temps pour jouer demain midi, mais peut-être lundi, on verra un trio Batherson avec Cousins et Zetterlund. Donc, ça change quand même l'image du deuxième trio de cette équipe-là. Puis après ça, ben c'est à tes trios de profondeur de faire le travail. Avoir un David Perron sur un troisième ou un quatrième trio, je suis pas contre cette option-là. Mais honnêtement, je trouve que ça a été bien travaillé de la part de Steve Staios, qui disait justement que hier... regardait le portrait, avait pas l'impression que ça allait débloquer, qu'il y allait quelque chose une transaction qui allait se conclure. Puis ce matin, tôt, il a vu qu'il y avait peut-être un petit momentum là, pour passer à l'action. Puis ça a été une journée occupée, mais bien travaillée de la part de Steve Staios.
Ça semble avoir été une journée occupée pour beaucoup de directeurs généraux. Il y en a un, par contre, qui travaille depuis pas mal plus que 24 heures. C'est Rick Tolsky, directeur général des Hurricanes de Caroline. Lui pensait avoir trouvé le jackpot en allant chercher Mikko Rantanen et quelques semaines plus tard se doit de l'échanger. C'est les Stars qui ramassent le pactole avec Mikko Rantanen pour qui ça a jamais, mais jamais levé du côté de la Caroline. Donc là, on va avoir échangé Mikko Rantanen en retour de Logan Stankoven, qui est jeune. Deux choix de première ronde conditionnels. Ils sont protégés top 10, là, comme si les Stars allaient finir dans les 10 pays d'équipe de la Ligue dans les prochaines années. Et deux choix de troisième ronde contre Mikko Rantanen. Et Rantanen se pointe là et signe un gros contrat à Dallas immédiatement, ce qu'il a refusé de faire en Caroline, alors qu'il était encore sous le choc de la transaction par rapport à l'Avalanche. T'es Eric Tolsky, là, tu te réveilles demain matin. Là. Ouf, il me semble que tu as la bine assez basse, merci.
Non, mais t'as peut-être l'illustration de deux DG avec un bagage d'expérience, un brin différent. T'as Jim Neal qui, lui, a négocié d'abord s'assurer qu'on était pour attacher Mikko Rantanen sur plusieurs années avant de bouger. tandis qu'Eric Kluski, peut-être aussi avec la pression d'un proprio qui voulait voir l'équipe changer un petit peu, a voulu frapper un circuit en faisant l'acquisition de Mikko Rantanen. Mais écoute, je vous en avais parlé, les gars, là, les Hurricanes étaient de passage à Montréal le 27 février dernier. Puis si on pouvait lire le degré de bonheur dans le visage de Rantanen, il était probablement à 2 ou 1 sur une échelle de 10. C'est un mariage qui n'a jamais eu lieu entre Rantanen et les Hurricanes. Puis probablement qu'on ne veut pas commettre un Jake Gunzel 2.0, se retrouver avec absolument rien à la fin de l'année. Logan Stenkoven est un très bon jeune attaquant.
Mais ça va oui. pas bien pour lui présentement. Il est
Non. C'est dans une équipe où il y a plusieurs bons attaquants à Dallas. C'est ça. Probablement moins de temps de jeu en supériorité numérique, etc. Donc, Stenkoven va probablement profiter d'un nouveau départ, mais je pense pas que ça va être lui ton fer de lance pour les séries. Tu obtiens 2 choix de premier tour, c'est pas négligeable, mais il y a quelques semaines, on croyait que les Hurricanes s'armaient pour un très long parcours en série. Maintenant, c'est une autre histoire. Écoute, c'est une saga qui se termine drôlement là, de voir un joueur étoile comme Rantanen être échangé 2 fois en quelques semaines. C'est quand même ironique aussi qu'il dit oui pratiquement au même contrat que l'Avalanche du Colorado lui proposait l'été dernier.
Oui, c'est ça qui est. Mais la différence, c'est au niveau du taux d'imposition aussi du côté du Texas qui est un peu différent.
Ouais. Mais à ce montant-là, si tu veux jouer avec McKinnon, si tu veux rester dans l'équipe où tu as été heureux. Tu sais, Jake Evans a peut-être accepté d'en faire un peu moins, pas au même chiffre, mais il accordait une valeur.
À 10 millions près.
À 10 millions près. Non, mais peu importe le montant, Jake Evans, c'est un joueur qui a accordé une valeur au logo, à l'équipe. Il est heureux dans ce marché-là. Il a accepté d'en prendre un petit peu moins. Rantanen a peut-être été gourmand du début à la fin, mais résultat, il déménage une deuxième fois en peu de semaines.
Rantanen, quand il y a eu la transaction, était sur le choc, puis il disait « Je comprends pas pourquoi on n'a pas eu des discussions plus longtemps, tout ça. » D'accepter d'aller à Dallas et de peut-être affronter l'Avalanche
peut-être
en
au premier
première
tour.
Ronde des séries éliminatoires.
Honnêtement, là...
Est-ce qu'on est dans un scénario de film ou peu importe, ou de lutte professionnelle aussi, là, mais est-ce qu'on est dans ce type de scénario-là où il a fait « Ben écoute, si je pourrais aller quelque part, je vais aller à Dallas » parce qu'il n'y avait pas de l'air d'avoir beaucoup d'options sur la table pour échanger Rantanen.
Honnêtement, c'est presque un crime là, d'avoir l'Avalanche et les Stars qui s'affrontent au premier tour des séries. Le spectacle va être spectaculaire, mais on s'entend que c'est la finale
mais
de l'Ouest avant le temps.
L'Avalanche aurait à dépasser le Wild du Minnesota d'ici la fin de l'année. Puis je pense qu'il y a un point ou deux seulement d'écart. Le Wild sans Kaprizov jusqu'à la fin de l'année.
Joel Eriksson-Ek qui n'est pas là non plus.
Sans Joel Eriksson-Ek.
Les Jets qui ont une bonne avance quand même.
Exact.
Je pense
donc,
que
le scénario 2-3 Dallas-Colorado est plausible.
Ça va faire des flamèches. Mais c'est ça, c'est deux équipes qui aujourd'hui ont, disons, qui ont fait le plein d'outils en vue des séries.
Mais dans l'Atlantique, là, 1-2-3, peu importe l'ordre. Toronto, Floride, Tampa.
Ouais, même chose.
Tu vas avoir peut-être un Toronto, Tampa ou un Floride, Tampa au premier tour. Il y a de très bonnes équipes qui vont tomber rapidement.
Oui, puis tu sais, avoir la possibilité de voir les Stars de Dallas être éliminés au premier tour après des années à cogner à la porte de la finale de la Coupe Stanley. Puis là, on a l'impression que vraiment le noyau est rendu là. On a ajouté les éléments, les gros éléments. Tu sais, un Mikko Rantanen, je veux dire, t'ajoutes ça à cette équipe-là. Je pense qu'on est prêt à passer à la prochaine étape.
T'as des joueurs qui vont revenir, qui sont blessés. Tyler Seguin va revenir.
C'est ça. Mais
Wyatt Johnston vient de signer un contrat aujourd'hui de 8 ans.
Tout est positif, mais ça se peut que t'affrontes l'Avalanche du Colorado.
Exact.
Puis une fois que ça se produit, ben tu flippes un 25 cents, puis tu vis avec les conséquences. Ça, ce serait un scénario, en tout cas, ça ferait couler beaucoup d'encre. C'est très intéressant.
Parlons-en de l'Avalanche. On est allé chercher Brock Nelson. On est allé chercher aussi Charlie Coyle. Coyle, ça a coûté Casey Middlestad quelques choix, un choix de deuxième round aussi. Tycon Nelson contre Callum Ritchie, un choix de première et un choix de troisième round. Ces deux acquisitions-là, là plus, on y revient, Mackenzie Blackwood qui s'est joint à cette équipe-là. Est-ce que ça fait, selon vous, une équipe qui peut passer à travers des Jets ou des Stars, peu importe comment ça va se dessiner?
On, on ajoute aussi Nick Cash qui est là depuis quelques semaines déjà. C'est pas une acquisition de date limite. Mais...
Oui. Ben oui, oui, ça l'est, si on veut. Ouais.
Il y a quand même Nathan McKinnon qui, s'il n'est pas le meilleur joueur au monde, est peut-être le deuxième meilleur joueur. Kale McCarr qui est le meilleur défenseur. Arturi Lehkonen qui est un bon joueur important pour cette équipe-là. Brock Nelson.
La ligne de centre est.
Avec Brock Nelson et Charlie Coy dans des positions de deuxième, troisième centre. Écoute, il y a du gros, gros talent avec l'Avalanche. Nick, petite correction, là, je pense que c'est le chiffre 8 qui t'a induit en erreur, là, mais Wyatt Johnson, c'est une prolongation de contrat de 5 ans.
5 ans.
À 8,4
millions. 5 fois 8.
Ouais, 8,4. Mais c'est un autre beau coup de Jim Neal, mais. Dans l'Ouest, là, et puis on n'a même pas parlé des Golden Knights, mais il y a du gros talent dans cette association-là. Puis Nick, je pense, ça fait à peu près 8 ans, tu dis que les Stars ont gagné la Coupe. Mm. Bien, si jamais Miro peut revenir au jeu, puis c'est une équipe, Miro Heiskanen et Tyler Seguin, on a parfois grogné dans le passé contre les équipes qui dépassaient le plafond salarial. Mais là, je ne suis pas un grand mathématicien, mais 8 plus 8, je pense que ça fait 16. Tu pourrais pratiquement être 16 millions en haut du plafond salarial quand Tyler Seguin et Miro Heiskanen seront de retour au jeu.
Ben, il y a des équipes qui ont déjà fait 31 ouais. millions au-dessus, fait que je pense pas que c'est un problème.
Il y a encore un coussin.
been there, done that, comme on dit. Une équipe qui ne verra pas les séries éliminatoires, c'est les Bruins de Boston, ou du moins, on semble en avoir fait le constat. On a échangé un des derniers visages de la grande épopée des années 2010 des Bruins, Brad Marchand, contre un choix de deuxième ronde uniquement. Ça pourrait devenir un choix de première ronde là, si les Panthers font un bout en séries éliminatoires. Que Brad Marchand soit sur le marché, c'est une chose, mais un retour aussi faible que ça, j'ai l'impression que du côté de la direction des Bruins, on a fait notre T'sais, on a fait nos choix, puis ça allait être maintenant. On le sait, on est un peu impulsif là, du côté des Bruins. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière défaite des Bruins, c'était contre les Hurricanes, puis c'est le bâton de... Il me manque le nom du défenseur, mais son bâton, c'est Zadorov. Son bâton s'est cassé, ce qui fait que la rondelle, plutôt d'être une passe vers l'avant, s'est retrouvée sur la palette d'un joueur des Hurricanes. On a marqué, et ça a coûté deux points aux Bruins, et on dirait qu'à ce moment-là, ben, c'était terminé, et on est passé de l'avant. Mais... À quel point vous êtes surpris de voir que Brad Marchand s'en va en Floride, de toutes les places, là, en plus, là, avec ce qui s'est passé dans les dernières années.
Avec Sam Bennett, avec Matthew Tkachuk, qui devrait revenir éventuellement.
J'aimerais ça voir la discussion entre Tkachuk puis Marchand, là, parce qu'on se souvient qu'aux Quatre Nations, Marchand, à la fin du tournoi, a dit c'est parfois bien de tourner sa langue cette fois avant de parler, quelque chose comme ça, en parlant de Matthew Tkachuk.
Bennett, c'est celui aussi qui avait blessé Marchand en série l'an dernier.
Ah oui,
avec le
petit coup de poing. bien placé, loin des yeux.
Aïe, 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 aïe.
J'avais oublié ça.
Je sais pas si Cam Neely, au moment où on se parle, je sais pas si Cam Neely ou Don Sweeney ont donné une conférence du côté de Boston. Là. J'ai pas eu le temps de lire à ce sujet-là, mais le retour pour Brad Marchand, un choix de deuxième tour conditionnel qui pourrait devenir un choix de premier tour, j'ose espérer qu'ils ont parlé à Brad Marchand. Puis qu'ils lui ont pratiquement demandé où voudrais-tu partir pour obtenir un retour qui n'est pas si avantageux. Là. Si Scott Laughton vaut un choix de premier tour aujourd'hui, je trouve que c'est quand même étrange de voir Marchand partir pour un aussi bas prix, même s'il est vieillissant à 37 ans. C'est un gars de caractère. C'était le capitaine des Bruins. C'était M. Bruins de Boston. Puis tantôt, je lisais le communiqué des Bruins pour parler de la transaction. Tu ne peux pas trouver plus froid comme communiqué. Il n'y a même pas une ligne de Cam Neely ou de Don Sweeney pour remercier Marchand qui a gagné une Coupe Stanley avec cette équipe-là, qui a eu une autre participation en finale. On dirait que c'est une petite transaction du mercredi soir là, où tu places un gars au ballottage. Là. Il n'y a aucun soupçon d'amour dans ce courriel-là.
Marchand, quand même, tu dis qu'il est vieillissant, mais oui, c'est vrai, 36 ans, mais... Une saison, tu sais, il y a quand même 47 points en 61 matchs avec une équipe des Bruins qui est dans le dernier tiers de la ligue au niveau de l'attaque, 172 buts, c'est 10 de plus que les Ducks d'Anaheim. Tu sais, je pense que tu le mets dans une formation aspirante comme les Panthers de la Floride. Puis on l'a vu aux Quatre Nations sur le même trio que Bennett. Ça peut faire des flamèches. Puis ça peut. Tu sais, ces gars-là sont capables de générer de l'attaque juste en raison de la façon dont ils jouent. Donc là, tu as cette option-là. Est-ce qu'on va voir un trio avec Bennett et Tkachuk éventuellement? Tu sais, en séries éliminatoires, tu affrontes ces trois-là sur le même trio. C'est pas reposant. Puis...
Écoute, je me demande si les matchs entre les sifflets vont être plus longs que entre.
C'est pas bon, c'est pas bon pour la. Non, c'est pas bon pour la fin des matchs. Ça va s'éterniser. Mais moi aussi, je suis surpris du retour. Tu as un choix de deuxième ronde. En plus, les Bruins, c'est pas l'équipe qui a la meilleure banque d'espoir puis la meilleure banque de choix. Fait que je sais pas s'il y avait vraiment aucune autre offre à travers la ligue, mais me semble de mettre la
vrai, mais j'ai
à mettre la main sur un choix de première ou un espoir quand même de qualité, là, parce que sinon, tu regardes les choses puis les Bruins ont du chemin à faire là, pour la reconstruction qui s'entend.
Marchand est blessé en ce moment, mais Bill Zito s'attend à le revoir d'ici quelques semaines. Donc, c'est pas une absence de plusieurs mois non plus dans le cas de Brad Marchand.
Je suis en train de lire un peu les commentaires de Don Sweeney, puis il dit, écoute, c'est sûr que c'est une transaction qui fait mal, mais il y a toujours eu un grand écart entre ce que nous, on était prêt à offrir à Brad pour son prochain contrat. Tu sais, il va devenir joueur autonome sans compensation, ouais. Et ce que lui avait en tête. Puis il dit, oui, l'écart s'est rétréci, mais jamais assez. Puis on a décidé de prendre cette décision-là, mais peut-être que la décision, on aurait dû la prendre il y a une semaine. On avait parlé qu'il y en avait beaucoup des équipes qui sont dans la course, puis ça avait retardé l'ouverture du marché, vraiment que tout déboule. La confrontation des Quatre Nations a fait ça aussi. Tu sais, je veux dire, il a bien paru quand même, Marchand, la confrontation des Quatre Nations contre les meilleurs au monde. Tu te dis, c'est sûr que je vais pouvoir avoir plus que ça pour lui. Puis ça n'a jamais. En tout cas, je ne sais pas. Là,
peut-être que Don Sweeney devrait regarder son propre travail. Il a lancé combien de millions à Elias Lennon et Nikita Zadorov? Pour ensuite dire qu'il n'y a plus d'argent pour son capitaine Brad Marchand. Je comprends le principe que tu ne peux pas avoir non plus la plus grande fidélité envers tes joueurs. Julien Brisebois a bien manœuvré avec un Steven Stamkos. Mais quand même, je trouve ça étrange d'entendre ce discours-là. Je ne sais pas si les Bruins avaient regardé moindrement des matchs d'Elias Lindholm avec les Canucks de Vancouver l'an dernier. Mais Lindholm, sans parler d'un déclin, c'était pas un joueur qui était en pleine ascension.
Tu peux en parler d'un déclin, honnêtement.
C'est ben, ce qu'on voyait. En série, c'était pas du grand hockey de la part d'Elias Lindholm. Donc, est-ce qu'ils vont... il y a plusieurs questions qui vont sortir du côté de Boston. Là. Est-ce que le duo Neely et Sweeney sont là pour les prochaines années? Puis en même temps, par contre, Guillaume est le premier à le dire, là, Boston, c'est une très belle ville. Peut-être qu'au 1er juillet, c'est le type d'équipe qui peut sortir le portefeuille, essayer encore une fois d'aller chercher des joueurs sur le marché. On verra.
Tu regardes la formation en ce moment, la formation des Blues.
C'est pas attirant. Il reste David Pastrnak, Charlie McAvoy, Jeremy Swayman, puis la banque d'espoir, c'est faible, très faible.
Non, c'est. On a trois bons. Dans le fond, c'est le nouveau noyau de l'équipe. T'sais, si on veut relancer ça, on va avoir besoin de 4-5 ans, mais sur papier, ces trois joueurs-là, je crois, vont être là dans 4-5 ans. Donc, ouais, c'est
même
un gros pas par en arrière.
David Pastrnak, comment tu réagis, là?
C'est ça. En même temps, je veux dire, ça fait combien d'années que les Bruins défient les prédictions de tout le monde? Là? Qu'à chaque année, on dit, ça, c'est l'année où ils vont rater les séries éliminatoires. Puis quoi, ils s'étaient rendus. Il serait rendu loin en séries éliminatoires chaque année. Il y a eu la fameuse année de 135 quelques points, puis tout ça alors qu'on 138, on était plus 138 ou peu importe, là, rendu là, on arrête de compter. Mais je veux dire, il fallait que ça casse un moment donné, là, cette équipe-là.
C'est un déclin rapide là, quand tu y penses. Là. Ben, la saison record, il n'y a pas si longtemps. C'est ça, en deux ans, puis là, c'est vente de feu à la date limite. Ça change vraiment.
On a parlé de Brad Marchand, mais Brennan Carlo. C'était quand même une pièce importante du casse-tête défensif des Bruins. Carlo qui s'en va à Toronto, avec qui, dans les dernières années, il y a eu des confrontations au premier tour des séries.
On peut pas reprocher à Don Sweeney d'avoir eu une crotte sur le cœur pendant la date limite cette année. Là. Échange Marchand du côté de Boston, de la Floride.
À toutes les équipes qui ont
échange
qui ont
Carlo à Toronto. Je veux dire, si t'as eu du brasse camarade dans ces équipes-là, ça a été oublié. Là. C'est du passé.
Oui, échange Casey Middlestad et Charlie Coy, donc une transaction avec l'Avalanche.
Middlestad a un certain potentiel, là, ça en a un autre que ça n'a pas levé.
Ça reste une transaction hockey, là, on verra le résultat. Mais tu sais, on a parlé des Panthers, les Leafs, c'est peut-être moins sexy, Brandon Carlo ou même Scott Laughton, mais ça rentre dans les besoins à combler. Un défenseur droitier, gros bonhomme, le 6-6-6, Brandon Carlo, qui va jouer en infériorité numérique, va donner un coup de main au Maple Leaf. Puis Laughton, qui est originaire de Toronto, là, ou de la grande région de Toronto.
Comme 80% des joueurs de la Ligue. Là.
Ouais, mais qui va venir jouer comme troisième centre. Je trouve que ça reste des acquisitions c'est... intéressantes de la part
de J'aime l'acquisition de Carlo, pour avoir couvert les Bruins l'année dernière en série. Là, c'est un joueur, on dirait en série, il pogne une coche. Puis du côté de Toronto, on a besoin de ce genre de joueur-là parce qu'il y en a qui descendent d'une coche. Donc d'avoir un Carlo qui a quand même d'expérience de série puis qui a déjà montré ce qu'il était capable de faire en série. T'sais, même, je pense qu'au point de vue offensif, tu peux voir que sa production augmente en série. Il a marqué quelques buts importants l'année dernière aussi. Fait que j'aime cette acquisition-là. C'est pas que j'aime particulièrement parler en bien des Maple Leafs de Toronto, mais sur ce coup-là, il faut avouer que je pense qu'ils ont comblé les besoins de l'équipe. Puis là, ben, le défi, ça va être de passer à travers la première ronde qui pourrait être contre une des deux équipes de la Floride. Fait que ça aussi, ça ferait des flamèches si on a parlé de l'Avalanche contre les Stars. Si dans l'Est, on a un Floride-Toronto ou un Tampa-Toronto, ça pourrait brasser.
Mais là, dans l'Est, là, c'est terminé au premier rang de la division Atlantique. C'est ça prend important. Une symbolique là, beaucoup, beaucoup plus grande.
Dans la centrale aussi. Là,
oui, dans la centrale
c'est
aussi.
Deux, c'est les deux sections où c'est important. On dit toujours c'est vraiment à quel point c'est vraiment difficile pour une équipe de répéter. Les Panthers, d'aller gagner une deuxième Coupe Stanley consécutive. Dans leur cas même, ce serait une troisième finale de suite. Là, donc, ce serait une autre commande. Mais cette acquisition-là de Marchand, l'acquisition de Seth Jones qui vient donner un peu de profondeur dont on avait besoin chez les Panthers. Est-ce que quand vous regardez cette équipe-là des Panthers, elle est aussi. Elle peut aller aussi loin, à votre avis, que ce que vous avez vu, que l'an passé, là, dans le fond?
Ben, je pense que oui. Écoute, c'est encore Paul Maurice, c'est encore Sergei Bobrovsky, encore Barkov, qui est un des meilleurs centres de la Ligue nationale de hockey. T'ajoutes éventuellement un Marchand, t'ajoutes Nico Sturm, qui est un joueur de centre de quatrième trio qui gagne des mises en jeu. Seth Jones a un salaire où les Blackhawks retiennent là, 2,5 millions, si ma mémoire est bonne, ou 2 millions du contrat de Seth Jones. Donc, Seth Jones vient un petit peu remplacer la perte de Montour. Il va y avoir l'épuisement. Là. C'est pas facile de jouer autant de hockey en 2-3 ans. Le Lightning avait déjà réussi. Je crois que sur papier, cette équipe-là a les ingrédients. Ça va peut-être. Le point d'interrogation, c'est qu'est-ce qui va se passer avec Mathieu Tkachuk? Est-ce qu'il va pouvoir revenir réellement à 100% pour le début des séries? Mais sinon, les éléments sont en place pour encore visiter Fort Lauderdale et Sunrise quand il fait 34 degrés plus l'humidité.
Et l'aréna en plein milieu du stationnement, c'est vraiment bucolique. Mais je regarde la formation des Panthers en ce moment. Puis, tu sais, sur le site Daily Faceoff, le Marchand et Tkachuk sont même pas dans la formation. Puis tu regardes les quatre trios de cette équipe-là, puis tu te dis, bon, c'est quand même une équipe qui pourrait franchir une ou deux rondes en série. C'est quand même une des bonnes profondeurs qu'une équipe peut avoir. Donc, je pense que pour répondre à ta question, ça fait aucun doute que les Panthers sont encore une fois parmi les favoris.
Mais tu regardes, justement, là, je suis sur la même page que nous. On salue tout le monde à Daily Faceoff qui font de l'excellent travail. Mais ça peut signifier là, les retours de ces deux-là qu'un Luo Starinen est sur la quatrième ligne, un Bokvist est sur la quatrième ligne. C'est du beau gros luxe. Donc, puis l'ajout de Seth Jones, là, ça va être. Ce sera maintenant. C'est un Brandon Montour, peut-être, qui manque un petit peu, qui était là les autres années, là, un défenseur offensif. Mais j'ai hâte de voir là, ce que va faire Seth Jones dans les prochains matchs. Là. Quelques sujets rapidement, là, puis je vous pose ça en question plus qu'en analyse. Là, mais une des équipes qui n'a pas bougé vraiment, c'est les Capitals de Washington. C'est sûr que là-bas, bon, les Capitals, on a fait le gros du travail avant le début de la saison, ce qui est tout à fait une bonne stratégie, là, soyons francs, ça donne des résultats. Mais on avait parlé il y a quelques semaines, puis on se posait la question, est-ce qu'ils sont réellement des aspirants à la Coupe Stanley ou c'est une belle histoire cette année, mais il va en manquer une fois en séries éliminatoires. On n'a pas vraiment bougé chez les Capitals. Votre analyse de tout ça, c'est est-ce qu'on aurait dû?
Ben, pourquoi tu viendrais ébranler une formule gagnante, là? Les Caps ont une saison bien au-delà des attentes. Premier dans l'Est, c'est une équipe qui gagne des matchs à un rythme infernal depuis le début de l'année. Il y a eu des acquisitions précises. Lars Eller, plus tôt cette saison. Là, c'est Anthony Beauvillier, les Pingouins, qui ont obtenu un choix de deuxième tour. C'est pas la lune. Mais quand tout va bien, pourquoi tu viendrais sortir des éléments ou pourquoi tu viendrais ajouter trois ou quatre nouveaux visages? Puis, honnêtement, qui aurait prédit une aussi belle saison pour les Caps? Je crois pas qu'il y avait des attentes non plus pour une conquête de la Coupe Stanley, mais maintenant, t'as pas le choix de lancer parmi les équipes qui peuvent rêver un long parcours en série.
On a même mis nos deux gardiens sous contrat pour le
moment. Oh, exact, exact.
Donc, un choix de deuxième ronde pour Beauvillier, quand même.
Oui, quand même, mais quand.
On l'a payé cher.
Probablement que Yoel Armia aurait rapporté un choix de deuxième tour. Sans rien enlever, Anthony Beauvillier, là, c'est un joueur qui s'est promené beaucoup dans les deux, trois dernières années.
Même prix que Brad Marchand. C'est quand même surprenant un peu quand on l'analyse dans cet angle-là. Une autre équipe, les Kings, pas énormément. On est de mouvement. On a été chercher Andrei Kuzmenko. Est-ce que quand on regarde tout ce qu'il y a dans la section centrale, quand on regarde un peu, on se dit que les Golden Knights, les Oilers sont là. Chez les Kings, ça ne donnait rien de vider la banque. On va plus essayer d'aller faire un bon bout de chemin en série avec les armes qu'on a à notre portée. Là.
Ben c'est un peu le combat des deux philosophies qu'on va voir. Là. Tu parlais des Capitals, les équipes qui ont décidé de garder le statu quo puis d'y aller avec l'équipe qui leur permet d'avoir du succès en ce moment, pas vraiment apporter de changement. Parce qu'il y a... Bon, je pense pas que l'Avalanche et les Stars vont se plaindre des changements qu'ils ont faits dans les derniers jours, mais tu sais, il y a quand même un risque que ça vienne affecter peut-être la chimie qu'il y a dans le vestiaire et tout ça. Je trouve ça intéressant de voir que, bon, on va pouvoir voir ce qui va rapporter le plus chez les équipes qui ont décidé d'y aller de stratégies différentes comme ça.
Qui disait l'autre jour, regardez toutes les transactions qui se font à chaque année, puis il y en a combien qui donnent, qui rapportent réellement des dividendes de façon spectaculaire. Je ne sais plus c'est qui, c'est un directeur général ou un entraîneur, ou je ne sais plus, mais.
Mais Nick, il y avait peu importe un point comment intéressant. Tu le tournes, il y a juste un gagnant tous
c'est
les
ça, ouais, c'est ça, exactement.
Il y a 32 équipes, il y a probablement de grosses pointures qui tombent dès le premier tour. Il y en a qui ont choisi. Il y en a qui ont choisi de la sagesse, mais Guillaume et Nick, vous parliez des Kings. Eux, ils ont eu le retour au jeu de Drew Doughty il y a quelques semaines. Donc, si Doughty a plus de matchs dans le corps pour le début des séries, c'est quand même une nette amélioration pour ta ligne bleue. Puis c'est probablement des équipes aussi, les Kings ont peut-être un discours lucide en se disant « Oui, nous misons sur une bonne équipe, mais est-ce que les Kings ont de réelles chances de gagner la Coupe Stanley maintenant? » Je ne suis pas convaincu, donc... Ils ont peut-être choisi, Rob Blake et compagnie ont choisi d'être plutôt prudents dans leur approche.
Guillaume, on le sait, tu gardes un grand espoir de voir les Rangers participer aux séries cette année.
Je ne le sais plus, là.
C'est ça, je m'en allais te demander. La transaction de Riley Smith, qui était un vétéran qui a gagné la Coupe Stanley, qui retourne à Vegas avec... Il redevient un misfit, c'est un gros dude misfit dans son corps.
Ouais, mais il était un peu misfit avec les Rangers aussi.
Ouais, ben c'est ça, on dirait que ça a jamais levé.
Ça levait pas, non.
En même temps, lui, tu sais, c'est plus la même efficacité quand il va arriver à Vegas. C'est un peu comme Yanni Gourde avec le Lightning. Je pense qu'on se fait pas d'espoir, d'illusion que Yanni Gourde va être le même joueur qui était à l'époque avec qui il jouait, avec Goodrow et avec Palat. Ça se peut-tu, le trio, en tout cas, il y avait une troisième ligne assez solide. Merci, j'ai oublié c'était qui, là, mais Gould faisait partie de ça. On est dans la course aux séries chez
c'est
les Rangers.
C'est pas Blake Coleman?
Blake Coleman, t'as raison. C'est exactement ouais, ça. Ouais. Ouais, Palat, il jouait plus haut sur les deux premiers trios du Lightning, ouais, dans le top 6. Mais je veux dire, on le sait, là, on en a parlé, si on ne fait pas les séries éliminatoires cette année chez les Rangers, ça risque de coûter cher à beaucoup de gens dans la direction. puis là, tu n'es pas plus actif que ça. Est-ce que ça vous surprend?
Ben, tu sais, je lisais les commentaires de Chris Drury qui disait on essaie de faire pencher la balance du bon côté tout en restant prudent en faisant l'acquisition de jeunes joueurs. Tu sais, Brandon Brisson qui s'en va là. Je sais pas. Tu sais, Calvin DeHaan, ça a été une acquisition dans les derniers jours. Carson Soucy, c'est des joueurs que j'ai l'impression que l'impact va être assez minime, mais qui peut-être...
Comme si on avait lancé des lignes à l'eau, au cas où ça colle. Ah,
là, c'est ça, comme, je sais pas, brasser la soupe, puis se dire, ben, tout d'un coup, qu'il y a une chimie qui se développe entre, je sais pas, moi, Soucy, puis un autre joueur et tout ça, mais je sais pas, puis même, tu sais, je lis les commentaires de Drew Reed.
Lusso Parsinen aussi, qui fait partie de, ouais. Ouais, non, peut-être, là.
Même le GM, le DG a pas l'air si convaincu. Non, mais tu sais,
il a fini par dire que c'est juste de faire encore aux chances.
Ouais, ben c'est ça. C'est comme, c'est pas un DG. Tu sais, Steve Steyos s'est présenté tantôt devant nous, puis il a dit on a une meilleure équipe. Puis j'ai steppé up parce que les joueurs ont steppé up récemment, puis je veux leur donner une chance d'aller en série. Du côté des Rangers, t'as l'impression que c'est comme bah là, on est rendu là, ça marche pas tant que ça, fait qu'on va essayer avec lui, puis on va essayer avec lui, puis en même temps, on va se backer avec des jeunes avec un peu de relève qui s'en vient pour pas tout brûler d'un seul coup. Fait que je sais pas, tu sais, les Rangers en étaient au stade où tu pensais que bon, dans leur situation, tu arrives à la date limite des transactions, tu procèdes au gros coup, tu vas chercher le joueur qui fait pencher la balance, puis là, tu te retrouves que tu n'es même pas dans le portrait des séries en ce moment, puis tu fais des petites acquisitions pour tenter d'améliorer les choses. C'est vraiment un gros, gros changement de plan, j'ai l'impression, du côté de New York, puis on va voir ce que ça va donner, mais je pense que la question au dernier podcast, c'est quelle équipe est à une transaction de se donner une place en série. J'étais allé pour les Rangers. Ils en ont fait plus qu'une, mais c'est pas nécessairement les transactions que j'avais en tête. Ouais, c'est ça. Fait que je peux pas dire. Je suis encore incertain quant à leur chance de participer aux séries.
Ben, c'est une équipe qui se retrouve dans le portrait avec les Red Wings, le CH, ouais. Les Sénateurs, les Blue Jackets.
Ils sont pas supposés d'être dans ce portrait.
Non, absolument pas. Puis si tu creuses un peu plus loin, il y a peut-être les Devils maintenant qui rentrent dans cette danse-là. Écoute, moi aussi, je lisais ce que Chris Drury a déclaré aux collègues de New York aujourd'hui, là, puis c'était pas très, très convaincant. Puis tu regardes la ligne bleue des Rangers, sans Adam Fox, qui est blessé. T'as beau ajouter Carson Soucy, c'est pas les six défenseurs qui sont les plus rassurants, mais étrangement, dans les 3-4 derniers matchs, ils ont bien joué défensivement, des jeux blancs contre les Prédateurs, un autre jeu blanc contre les Islanders. Défaite honorable de 3-2 en prolongation contre les Caps. Pour moi, les Rangers, c'est une boîte à surprise, mais même s'ils participent aux séries, on dirait que c'est tout croche depuis le début de l'année. Je continue de me dire que cette saison-là va tourner au vinaigre du côté de Manhattan.
Ouais, le gâteau n'a jamais levé là, un peu chez les Rangers cette année. Peut-être qu'on va en sauver, en faire un muffin écrasé, mais ça regarde mal un peu là, pour les Rangers. Les Oilers, on est allé, bon, chaque année, hein, la mort des taxes, puis les Oilers qui ont besoin d'un défenseur à la date limite des transactions. On a été chercher Jake Walman du côté des Sharks de San Jose. Quand vous regardez l'ajout de Walman, vous regardez cette équipe-là, on parle d'une formation qui est passée à 2 buts de remporter la Coupe Stanley l'année dernière. Est-ce que cette équipe-là est meilleure cette année, moins bonne, est-ce que ça vous inquiète quand vous regardez où les Oilers peuvent encore viser la Coupe Stanley? Surtout qu'on a le chemin un peu moins compliqué. Là. On n'est pas dans la centrale, là. on est dans la Pacifique.
Ben, les Oilers ont toujours Connor McDavid et Leon Draisaitl. Il y a en début de saison, ils ont parié sur Jeff Skinner. Je pense pas que le pari lève jusqu'à présent.
Mon pool fait dire que non.
Non, exact. Jake Walman va certainement donner un coup de main. C'est un défenseur qui est quand même offensif, là, 32 points avec les Sharks, mais surtout, moi, la stats qui frappe mon œil, moins 1 avec une aussi mauvaise formation. Ça devrait donner un coup de main aux Oilers. Si tu regardes contre les Canadiens, le but de Joel Armia sur une passe de Lane Hudson, une descente à 2 contre 4. Et Yoel Armia réussit à marquer parce que Darnell Nurse dort. Evan Bouchard surveille personne. Donc, pour reprendre le bruit de bouche de Michel Therrien.
C'est exactement ça qui m'est venu.
Je t'ai vu rire, mais écoute, Darnell Nurse en série l'an dernier, c'était pas toujours chic. Il va être encore en uniforme du côté des Oilers. Ils peuvent toujours se faufiler, mais même avec l'ajout de Jake Wallman, on parle pas du troisième, quatrième trio aussi. Je trouve que c'est mince plus rapidement.
J'aille pas l'acquisition de Trent Frederick qui
ouais,
est blessé
ouais,
en
qui
ce moment.
Il va venir apporter un peu de papier sablé. Là.
Mais ce qui était drôle avec cette équipe-là, j'ai vu, je pense, un collègue d'Edmonton qui tweetait la semaine dernière, j'ai l'impression que les Oilers vont chercher un attaquant de profondeur avec de la vitesse et un défenseur capable d'amener un peu d'offensive. C'est une équipe qui s'est débarrassée de Philip Broberg. Mm-hmm. Enfin, pas qui s'est débarrassée,
ah ouais,
mais qui s'est fait
de voler.
Dylan Holloway, l'année passée en série, avait été, tu sais, il avait eu de bonnes séries, il avait eu de bons flashs. Ça ajoutait quand même une certaine profondeur intéressante à cette équipe-là. Puis là, tu te dis, bon, un an plus tard, tu es à la recherche des ingrédients que tu as laissé partir. Tu sais, c'est un peu ironique, mais tout ça pour dire que tu sais, à l'attaque, je pense que Frederick peut remplir un certain rôle similaire à celui d'Holloway avec un peu moins d'attaque, évidemment, là, comme dans son potentiel. Là.
Écoute, quand Mathias même... Ekholm va revenir. Là. Il ne jouait ouais. pas hier soir. Il est malade dans le cas d'Ekholm. Mais je pense que ça peut être aussi simple aussi. Stuart Skinner, quel visage de Stuart Skinner va-t-on voir en série?
Je regardais
un point d'interrogation aussi devant le filet. Là.
Je regardais depuis, je pense, deux semaines, trois semaines, les Oilers sont avant-derniers dans la Ligue pour la défensive, pour le nombre de buts ouais. accordés.
Ben, il y a toujours une passe dans la saison des Oilers. Ouais, il y a toujours vrai. Une passe où c'est très croche. Finalement, on a réussi à redresser ça, mais ça reste que c'est encore...
L'an dernier, les Oilers avaient été quand même magiques en infériorité numérique aussi. Là. Même si on parlait du potentiel, mm-hmm. t'sais, de la grosse force de frappe, ben, les Oilers donnaient pratiquement rien à 4 contre 5. Puis c'est une facette du jeu qui est drôlement importante. On verra, mais tu sais, je me répète, mais McDavid et Leon peuvent changer rapidement le cours d'une série.
Ouais, je sais que c'est quand même le souhait de GF de se retrouver à Edmonton au mois de juin. Il a vraiment hâte à ça.
Oui. mais juste pour aller faire un tour au Campio, dire salut à l'ami Wes. Un Gaspésien qui sert des boissons alcoolisées du côté d'Edmonton. Mais okay, on peut rire, là, mais point de vue ambiance hockey, je prends Edmonton bien avant Toronto. Même si Toronto, il y a un vol à toutes les heures, c'est facile de rendre du côté de Toronto.
Tu peux y aller en train.
Oui, tu peux y aller en train aussi, mais il y a une énergie, il y a une vie dans cet amphithéâtre-là. Puis du côté des Maple Leafs, je sais pas ce qui se passe avec ce building-là, mais c'est pas tout le temps festif.
Non. Et c'est un problème depuis l'ouverture du building, à vrai dire. Hey, félicitations quand même aux Sharks, hein, qui avec Jake Wallman, on avait été le chercher et un choix de deuxième round.
Les Wings l'avaient donné.
Contre rien du tout de la part des Wings. Et là, on était chercher un choix conditionnel de première ronde. Beau travail là, là-dessus du côté de
juste
Mike
les Red Bird. Wings aussi qui font l'acquisition de Peter Mrazek. Probablement cette année, ils vont finir l'année avec 52 gardiens qui auront porté l'uniforme des Red Wings.
Attrapais-tu un Nordique dans le temps?
Ouais. Peter Mrazek, Cam Talbot, Alex Lyon pour une équipe qui veut se battre pour une Ville participation
Yusso,
aux séries.
Ville-Yousseau,
il y a une chanson aussi à son honneur. Oui. Le douanier Rousseau. OK, enchaînons.
C'est
parce
lourd.
Que Guillaume Lefrançois serait beaucoup trop heureux en ce moment. Pas le nommer.
Il est 8h02, mais on a l'impression qu'il est 10h30
la journée,
soir.
Hein, la journée était longue un peu. Là. Juste avant de vous prononcer, y a-t-il une équipe qui vous a déçu ou pas aujourd'hui? Ou à l'inverse, l'équipe gagnante selon vous?
Une équipe gagnante, c'est...
À brûle
des fois,
là,
dans,
comme ça,
ben moi, dans la simplicité, j'aime bien le Lightning. Bjorkstrand, puis Yanni Gould, même si le prix est élevé, des choix de premier tour, Gould connaît parfaitement l'environnement à Tampa. Oliver Bjorkstrand, c'est un marqueur de 20 buts depuis plusieurs années. J'aime ce que Lightning a fait. Mais écoute, sur papier, il y a plusieurs équipes qui croient s'être amélioré nettement aujourd'hui, mais on verra dans quelques semaines.
Je veux que tu m'expliques la philosophie de Julien Brisebois sur quelle importance il donne à un choix de première ronde.
Ben,
zéro.
Oh, zéro à partir d'un certain rang.
Ouais.
Pour un choix top 15, c'est une formule qui est mathématique. Ils ont analysé de nombreux repêchages. Puis tes chances d'obtenir un joueur d'impact entre le 25e et peut-être le 75e rang, mathématiquement, restent pratiquement identiques. Donc souvent, Julien Brisebois il va échanger un choix de premier tour, même deux, mais en retour, il va grappiller un choix de troisième tour ou un choix de quatrième tour, un petit peu plus lointain. Il l'avait fait avec les Blackhawks de Chicago pour Eagle. Tout le monde sursautait à l'époque. Il avait ramassé aussi un choix de troisième tour. C'est une équipe aussi qui repêche bien, après année. Donc, le Lightning peut se permettre. Puis j'ai aimé aussi la réponse de Julien Brisebois qui disait « On a encore la possibilité de gagner. Nikita Kucherov, Braden Point, Andrei Vasilevskiy, Victor Hedman,
Genzel
veulent gagner demain matin. » Il dit, j'aurais beau avoir des choix de premier tour, ça, c'est de l'incertitude. Yannick Gourde, je sais exactement quel rôle il va remplir dans l'équipe. Puis même chose pour Olivier Bäckström. Donc, c'est parfois, faut y aller de calcul. Puis Tampa Bay, c'est comment se servir. Puis il y a peut-être aussi une trop grande importance à accorder un choix de premier tour. Quand c'est un 28e, 29e choix au total, écoute, à l'époque des 21 clubs, là, ça, c'est un choix de deuxième tour. Donc, aujourd'hui, on dit que c'est un choix de premier tour. Puis il y a des équipes qui sont prêtes à se déshabiller pour aller en chercher. Julien Brisebois en profite.
Guillaume, toi, gagnant de la journée?
Ben écoute, je vais y aller. Ben gagnant, j'aime bien ce que les Sénateurs ont fait, puis on a parlé de long en large en début de balado. Côté perdant, là, tu regardes juste de l'autre côté, les Sabres de Buffalo, on sait toujours pas c'est quoi le plan
avec
les Sabres de Buffalo. Honnêtement, on vient de re-signer Jordan Greenway, Jason Zucker, qui sont des joueurs, bon, de son deuxième, troisième trio. On les a signés pour les deux prochaines saisons. On échange Cousins, qui, on en convient, c'est pas une saison éclatante. Puis les voyants sont pas tous au vert dans son cas. Mais si Cousins revient avec une saison de 30 buts avec les Sénateurs puis de près de 70 points l'an prochain, ben on peut peut-être se poser des questions. Parce qu'on a mis la main sur Josh Norris, qui a un historique de blessure. C'est un gros risque. Et le throw-in dans cet échange-là, c'est Jacob Bernard-Docker, qui, j'ai hâte de voir, je suis curieux de voir s'il va avoir un poste au sein des trois duos de défenseurs des Sabres, qui, on s'entend, c'est pas l'excellence incarnée, mais j'ai hâte de voir s'il y a une place pour lui. Puis s'il y a une place pour lui, est-ce que c'est sur un deuxième duo ou c'est sur la troisième paire? Fait que, tu sais, j'ai l'impression que pour ce que tu as donné, tu n'as pas eu beaucoup. Puis le plan est toujours aussi flou par rapport à l'orientation que tu prends parce que c'est une équipe qui, année après année, on se dit, sont rendus au point de se qualifier pour les séries et tout ça. Cette année, c'est une saison désastreuse. Puis là, on prend des décisions qui... On dirait que, bon, on joue après le noyau, mais ce qu'on obtient en retour, c'est peut-être pas équivalent. Donc, est-ce qu'on est en train d'abandonner sur ce noyau-là puis qu'on va faire imploser ça pour repartir un peu à neuf après? C'est très flou ce qui se passe à Buffalo. Fait que je pense pas qu'on peut placer cette équipe-là dans la catégorie des gagnants, ni même de ceux qui se classent en milieu de peloton. Là, pour moi, c'est une équipe qui est perdante à la fin de la journée.
Faut le faire parce qu'ils savent que c'est une reconstruction dans une reconstruction dans une reconstruction. C'est à peu près
c'est ça.
Ça, depuis,
c'est...
Quoi, ça fait qu'ils vont faire 14 ans. Là, que je pense qu'on n'est pas des séries éliminatoires. Imaginez ça à Montréal ou dans certains autres marchés. Là, c'est... Puis je veux dire, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Là. Je pense pas que cette équipe-là, soudainement, ça va cliquer comme on pensait que ça allait le faire il y a deux ans. Ça, malgré les, il y a des bons éléments, mais comme on dit, puis jamais le terme que vous avez dit plus tôt, ce que vous avez dit, c'est tellement dur d'évaluer ce qu'un joueur vaut là-bas. Ça se peut qu'il sorte de là puis que soudainement, c'est vraiment un bon joueur, mais peu importe la direction. Tu sais, on a ramené Lindy Ruff aussi, là. T'sais, Lindy Ruff, entraîneur expérimenté, a fait une super belle carrière, surtout à Buffalo, mais tu ramènes un Lindy Ruff qui qui venait d'échouer à amener les Devils en séries éliminatoires alors que les Devils étaient prêts. Je veux dire, si les Devils sont en santé cette année, là, on se bat pour pas mal plus haut que le classement, avait échoué dans cette mission-là. Puis là, tu lui donnes une équipe qui est encore plus jeune. J'ai de la difficulté à comprendre.
Mais Nick, parfois, la nostalgie ne représente pas la formule gagnante. Non. Lindy Ruff à Buffalo. Mais on parlait d'équipe perdante. Là. Barry Trotz, qui... À quoi ressemble le plan? Là?
Ouf.
Il a choisi de garder Ryan O'Reilly aujourd'hui dans un contexte où on payait cher pour obtenir de bons joueurs. Probablement qu'O'Reilly aurait rapporté un très, très bon retour, mais surtout aussi l'échange. Pourquoi aller chercher Michael Bunting? Tu donnes Luke Shen et Tommy Novak, puis les Pingouins, Kyle Dubas, se retournent quelques heures plus tard, échange Luke Shen et obtient deux choix repêchage, un deuxième tour et un quatrième tour, si ma mémoire est bonne, pour Luke Shen. Donc, j'ai de la misère à suivre la stratégie des Prédateurs de Nashville en ce moment.
Ça va avoir été une première année extrêmement...
Un deuxième et un troisième tour pour Luke Shen. Encore
bon,
mieux.
Vois-tu. Écoute, Luke Shen vaut encore un deuxième et un troisième choix. Tu sais que les prix sont assez élevés. Là, je veux dire, il est là depuis toujours. Il frappe, c'est ça. Puis c'est un gars qui a de l'expérience. Puis, est-ce qu'il a gagné
le contrat
à Tampa Bay, hein,
Luke Shen? Oui, il a gagné à Tampa.
Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Donc,
La valeur d'une Coupe Stanley, là, c'est...
Mais c'est aussi un bon vivant, si je peux me permettre une petite parenthèse. Luke Shen, une soirée à Boston, où on participe à un karaoké avec quelques collègues. Et Luke Shen regardait son frère, Braden, qui participait à la finale, quelques jours avant le septième match du côté de Boston. Et Luke était présent dans le karaoké. De mémoire, je ne pense pas qu'il avait chanté, mais écoutait attentivement, tapait du pied, parlait avec tout le monde, gentil bonhomme. Puis on se souvient que les Blues avaient gagné ce septième match-là du côté de Boston.
Tu vois, c'est pour ces informations, ces compléments d'informations-là qu'on va sur le terrain comme ça, qu'on va
dans les soirées karaoké, de se coucher tard.
On s'impose ça pour éventuellement utiliser ça dans un podcast 6 ans plus tard.
Ben, c'est ça. Moi, honnêtement, j'essaie de rester loin maintenant des karaokés là, de journalistes. Là, mais
c'est un terrain glissant pour
c'est
toi,
un terrain, c'est un terrain qui fait être glissant, effectivement. Parce que je ne suis pas un très bon chanteur, bien évidemment.
Non, non, non. mais ce soir-là, on dirait que tu avais bloqué les rondelles avec ton visage. Pratiquement comme Josh Anderson du côté d'Edmonton. Mais enchaînons, Nick.
Enchaînons. Mais j'allais juste dire, Barry Trotz, ça va avoir été une première année catastrophique. Après 20 ans de David Poyle, presque 20 ans de stabilité de David Poyle, ça va avoir été les acquisitions de Stamkos, les acquisitions de Marchessault n'ont pas payé. Il n'y a rien qui a cliqué là-bas alors qu'on avait une équipe qui était en séries éliminatoires l'année dernière. Puis là, tu fais d'autres transactions que c'est pas plus clair. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Peut-être que la saison morte va calmer un peu tout le monde, va permettre à Stamkos de se trouver une vie plus... t'sais, être moins sur le choc. Là, je pense que cette année, il était sur le choc de quitter Tampa Bay. T'sais. Peut-être, mais en même temps, Stamkos vieillit puis Marchessault vieillit. Cette dernière saison va peut-être avoir placé les Predators sur le très mauvais chemin et de la reconstruction. Donc, peut-être que Trotz a une petite discussion avec David Poyle pour la planification pourrait être une idée. Et en terminant, messieurs, ben, je vous demande la question évidente là, qui est maintenant à la suite de toutes ces transactions-là. Les jeux sont faits. Votre favori pour gagner la Coupe Stanley?
Wow! C'est... Ah. Vas-y, Guillaume, vas-y en premier.
Les Rangers.
J'y vais avec les... Ça serait, par contre, je pense que ce serait payant si je mettais 2$ les Rangers aujourd'hui. Oui. Mais je vais y aller avec les Stars de Dallas. Je pense que c'est ça. C'est une équipe qui a appris comment perdre, qui a appris à perdre, puis qui a maintenant l'élément là, qui fait pencher la balance, je pense. Un Mikko Rantanen qui a de l'expérience et tout ça. J'ai de la misère à parier contre cette équipe-là.
Wow. OK. Si tu y vas avec les Stars, je vais aller avec l'équipe qui va se retrouver sur le chemin des Stars au premier tour. Je vais aller avec l'Avalanche. Je pense que l'Avalanche avec Brock Nelson, avec Charlie Coyle, Ryan Lindgren aussi à la ligne bleue, Nathan MacKinnon, Martin Nikach. Ouais. Un retour du côté de Denver.
Vous avez
mais
pas
honnêtement, il y a plusieurs choix. Puis dans l'Est, là, les trois ténors de la division Atlantique, Floride, Tampa, Toronto. L'état de santé d'Austin Matthews me fait peur de l'extérieur. Je ne sais pas si Matthews a encore des petits bobos avec son dos. Mais j'aime quand même les acquisitions des Maple Leafs. C'est. Toi, Nick, vas-y donc, le
fait. Vous n'avez pas peur que le chemin soit tellement difficile pour l'Avalanche ou les Stars ou les Jets même que finalement on manque de jus, un peu comme ce qui est arrivé l'année dernière avec les Stars quand on a affronté les Oilers. C'était les Oilers, j'ai un blanc.
Oui, c'était les Oilers. Ouais, c'est Oilers qui avaient gagné. Ouais. Ben, c'est écoute, ça reste dans le domaine du possible. Il y a beaucoup d'aspirants, je trouve. Il n'y a pas une équipe qui se détache réellement. En ce moment, comme la meilleure équipe dans l'Ouest, les Jets de Winnipeg,
en termes de points. On peut parler, là.
Oui, mais les Jets ont été chercher, c'est quoi aujourd'hui, Brandon Tanev, un ailier de troisième, quatrième trio. Luke Shen, défenseur 5-6, probablement plus 6. Les Jets, c'est Connor Hellebuyck et le Connor Hellebuyck de saison. C'est une équipe sur papier aussi. Beaucoup de talent du côté des Jets de Winnipeg. On verra. Écoute, juste pour le scénario catastrophe, point de vue voyagement, une finale Winnipeg Rally, je pleure déjà. Ou Winnipeg Sunrise.
Je pleure pas juste pour le voyagement. Ça serait assez triste aussi. Winnipeg et Rally dans la même finale.
Non, mais Rally, c'est une blague. Rally, je pense qu'elle se place dans la catégorie des équipes perdante avec le fiasco Mikko Rantanen.
Ouais, non, ça va avoir laissé des traces. Tu veux que je réponde à la question de GF? Oui, les Stars. Je pense que les Stars, c'est la plus belle machine de hockey.
Mais t'as pas le choix. Ça fait 122 ans que tu prédis les Stars.
Non, l'année dernière, j'ai dit Oilers au début de la saison.
Ah oui?
J'avais Oilers au début de la saison parce que les Stars m'ont déçu pendant trop d'années. Puis avant ça, c'était Hurricanes de cette année, je peux te confirmer.
Ouais, moi aussi, j'avais pris les Oilers pour gagner la Coupe
Stanley. Ouais, c'est ça. Mais je regarde les Stars, puis c'est une équipe parfaite.
Ouais, c'est une belle machine.
C'est une équipe parfaite. J'ai pas le choix d'y aller avec les Stars, mais j'ai vraiment pas le goût de cracher ces Panthers pour une deuxième année consécutive. Non. Avec ce qu'on vient de faire comme acquisition, puis tout ça. Tu me dis une finale Panthers, puis Stars. Si j'avais à faire un top 2, là. Je pense que ça serait mes deux premiers choix. Puis, j'haïs pas les Jets. Là. Surtout si on n'a pas affronté Avalanche, si on a le Wild en première ronde. J'haïs pas les Jets, mais comme tu dis, là, ça dépend quelle équipe va se pointer en série.
Les Jets pourraient jouer les Flames peut-être au premier tour ou les Canucks, peu importe. Là, si les Jets terminent au sommet dans l'Ouest.
Ça serait plus le Wild, logiquement.
Le Wild est première ou deuxième équipe repêchée ou troisième dans la centrale.
Ouais, c'est ça.
Mais bon. Le premier tour des séries est souvent le tour le plus passionnant. Je pense que cette saison, ça risque d'être encore le cas.
Oui, exactement. Mais ça, on va voir ça dans un mois et demi environ. Ça va être le début des séries éliminatoires. Il reste encore beaucoup
de hockey. Puis, CH en série ou pas?
Oh!
Guillaume?
Non, honnêtement, tu sais, il y a une belle séquence en ce moment, mais il y a eu une couple de matchs là, qui le Canadien ne méritait pas la victoire. On a joué un peu de façon brouillonne.
Vas-y pour les deux équipes repêchées dans l'association de l'Est. Là.
Je pense que les Blue Jackets, j'ai eu de la difficulté à me laisser convaincre par cette équipe-là, mais je pense que les Blue Jackets sont là pour rester. Puis les Sens avec les mouvements d'aujourd'hui, je pense aussi qu'on se donne une bonne chance. Après ça, je pense que ça va jouer. Est-ce que les Rangers vont être capables de devancer les Devils? Puis est-ce que les Devils vont glisser à l'extérieur du portrait des séries? Tu sais, en ce moment, c'est l'équipe qui est la plus décimée par les blessures. Tu sais, je vois pas comment on va être capable de garder le rythme. Je rentrerais les Rangers, mes fameux Rangers, dans la troisième place dans la métropolitaine.
Mais tu sors les
je
garderais Devils.
Exact. Puis je garderais Columbus et Ottawa aux places de 4 mars.
Ça serait une méchante plonge là, de la part des Devils là, parce que on a 4-5 points.
Non, mais même les Blue Jackets peuvent rattraper. Les Blue Jackets, présentement, on se parle vendredi soir, ont deux matchs en main. Les Blue Jackets peuvent venir chercher le rang des Devils.
Ouais, ouais.
Rien d'impossible, mais si j'avais à prédire, je pense aussi que le CH va peut-être manquer un petit peu de souffle dans le dernier droit. Les Sénateurs, tôt ou tard, devraient participer aux séries. Mais le scénario où les Rangers manquent les séries, je déteste pas ça non plus.
Je déteste pas ça, mais je le vois pas. Je le vois pas. Je pense qu'éventuellement, ça va finir par juste cliquer assez pour rentrer comme 8e, 7e peut-être.
Puis les Red Wings,
je vais sortir les Blue Jackets. Malheureusement, là. Écoute, c'est long une saison, puis là, on arrive dans...
Mais pour avoir fait un tour, Nick, là, du côté de Columbus, il y a une énergie spéciale dans ce vestiaire-là.
J'en doute pas.
Adam Fantilli, Ken Johnson, tu sais, les deux ont pris leur air d'aller. Marchenko, j'imagine que Monahan va finir par revenir au jeu aussi. Il a recommencé à patiner dans le cas de Sean Monahan.
C'est fin du mois de mars, là, dans son cas.
Oui, c'est... Elvis aussi connaît une bonne saison, Merzlikins, donc... Ce serait toute une histoire de voir les Blue Jackets de Columbus là, entrer en séries éliminatoires.
Je pense que les Blue Jackets ont joué du hockey inspiré toute la saison à cause de tout ce qui est arrivé, Johnny Gaudreau, tout ça. Mais là, on arrive dans un moment de la saison où les autres équipes vont jouer, commencer à jouer du hockey inspiré aussi. Le sentiment d'urgence. Puis je pense que c'est là qu'on va se faire rattraper juste assez. Ce qui fait que les Rangers... Les Sénateurs seront en séries éliminatoires, puis les Blue Jackets, par un demi-point, vont rater.
Mais tu gardes les Devils en série.
Je garderai les Devils en série. Malgré les absents, il y a quand même des super bons éléments dans cette équipe-là. On a un bon gardien en Markstrom qui vient de revenir au jeu. Markstrom, donc je vais garder. À partir de là, est-ce que les Devils vont être troisième dans la métropolitaine? Est-ce que ça va être les Rangers? Je ne sais pas, là, mais je garderai les Devils. Pas par gros. Mais on va voir ça. Là.
On a un mois.
On va pouvoir se reparler. D'ailleurs, on va se reparler mercredi prochain pour le prochain épisode. Les gars, merci d'avoir été là en cette journée occupée. Guillaume, on te laisse aller à la quête. Ben, là, tu vas aller te coucher, là, mais après ça, parce que.
J'ai un texte à finir que vous pourrez lire demain matin en vous levant, probablement. Puis le match est à 12h30 demain. Donc, ça revient vite. On retourne à Canada assez rapidement.
Fais attention à l'ascenseur du côté de Canada. Nick, va manger ta pizza. Je ne sais pas si elle est froide.
Oui, elle est froide, mais c'est correct. Ça m'a fait plaisir de laisser une pizza froide. De toute façon, comme Guillaume m'a dit, c'est bon de la pizza froide. C'est vraiment pas désagréable. Donc, je vais aller manger ça. Chers auditeurs qui étaient là aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de bilan de la date limite des transactions. Comme je disais, prochain épisode, mercredi prochain. De toute façon, suivez-nous là où vous écoutez là, sur vos peu importe votre plateforme. Comme ça, vous êtes informés lorsqu'il y a un nouvel épisode. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. LNH, LNH, barre de soulignement FR sur X, sur Threads, sur Instagram. Et LNH-FR sur Blue Sky. Donc, on est partout. Parce que ben on s'en va dans le crunch dans la fin de la saison, donc on va avoir du bon hockey, puis manquez rien de tout ça, manquez rien de l'action. Les gars, merci d'avoir été là. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, et on se reparle très bientôt.